Dans un instant, nous ferons le point sur plusieurs enquêtes concernant les émeutes. Plusieurs interpellations ont eu lieu ces derniers jours concernant des crimes et délits commis à Saint-Louis, a indiqué le procureur de la République. Le centre-ville de Port-Ville a déclaré zone restreinte en raison des risques post-séisme. Nous ferons un point complet sur les suites du tremblement de terre au Vanuatu et nous entendrons de nouveaux témoignages. À Mayotte, l'aide internationale s'organise. Un pont maritime a été mis en place avec la Réunion. Emmanuel Macron sera sur place la nuit prochaine pour nous. Et puis du football dans la page sport et le PSG domine Monaco 4 buts à 2 en match avancé de la 16e journée de Ligue 1. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Et si la relance économique calédonienne passait par le maritime? C'est en tout cas en ce sens que le cluster maritime de Nouvelle-Calédonie a lancé une consultation en septembre dernier. Consultation qui aboutit à la mise en œuvre de projets dont nous parlerons dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu dès la fin de ce journal. Nous serons pour cela en compagnie de Marc Sabatier, le président du cluster maritime, de Soizic Fleury qui est manager du cluster et d'Hugues Danis, membre du conseil d'administration. Est-ce que l'économie bleue peut participer à une relance durable de l'économie? Ce sera donc dans les Jeudis de l'économie dès la fin de cette édition. Les investigations sur les troubles à Saint-Louis se poursuivent. Dans un communiqué, le procureur indique que des interpellations et des déferrements au parquet ont eu lieu au cours des derniers jours pour des crimes et délits commis sur la RP1 au niveau de la tribu de Saint-Louis, Nicolas Legrand.
Oui, tout d'abord un premier dossier dans lequel deux hommes âgés de 18 et 19 ans seront jugés demain en comparution immédiate pour des carjackings sur la RP1. Ça s'est passé entre le 27 mai et le 7 juillet dernier. Ils seraient impliqués dans les vols de 8 voitures. Ils ont donc été placés en détention provisoire en attendant l'audience de demain. Toujours concernant les faits de violence à Saint-Louis, un homme de 36 ans, habitant tout haut, a lui aussi été placé en détention provisoire pour tentative de meurtre sur les gendarmes. Il a reconnu 2 tirs sur les blindés de la gendarmerie, c'était le 25 juin dernier. Dans cette affaire, 2 autres hommes avaient été mis en examen courant septembre et également placés en détention provisoire. Et enfin, un individu de Saint-Louis a lui été arrêté dans le cadre d'une autre affaire qui date d'avant le 13 mai. C'était le 9 avril dernier, au terme d'une journée marquée par des blocages et des violences sur la RP1. Une motarde avait été agressée par une quinzaine d'individus cagoulés et munis de rondins de bois. Il l'avait fait chuter, l'avait roué de coups et était parti avec son 2 roues. La victime présentait des lésions justifiant une incapacité totale de travail de 10 jours associée à un traumatisme psychologique conséquent. Le 8 décembre dernier, un auteur présumé âgé de 20 ans a reconnu sa participation aux faits. 4 personnes sont donc désormais mises en examen dans ce dossier. Les investigations se poursuivent sous l'autorité du magistrat instructeur afin d'identifier et d'interpeller les autres co-auteurs ou complices.
L'autre grand titre de l'actualité, c'est bien évidemment la situation au Vanuatu. Il y a 48 heures maintenant, l'archipel a été touché par un très violent tremblement de terre et sur place, Lionel Sabot, la situation reste très compliquée.
Oui, situation très compliquée en effet sur le terrain, notamment au cœur même de la capitale, Port Vila, qui a été fortement touchée, vous le savez, par la secousse tellurique de mardi. Ce matin, le bilan de la catastrophe a été revu à la baisse par les autorités limanouataises et qui parlent désormais de 9 morts et de plusieurs dizaines de blessés. Parmi les personnes décédées, on compte un ressortissant français et 2 ressortissants chinois. Sur place à Port Vila, nous avons pu joindre ce matin Loïc Bernier. Il est le directeur de l'agence immobilière Caillard et Cadet, mais aussi des hôtels Ramada et Chantilly. Loïc Bernier qui parle d'une situation encore chaotique dans Port-Vila même.
Pour l'instant, on recherche encore des personnes qui seraient ensevelies sous certains immeubles détruits en centre-ville. Il y a un nombre important d'immeubles dans le centre-ville qui sont considérés comme non sécurisés. Le centre-ville de Port-Vila vient d'être déclaré zone restreinte et donc plus personne ne peut accéder au centre-ville. Pour l'instant, c'est une zone complètement sinistrée. Il y a énormément d'immeubles en fait, qui se sont écroulés, mais aussi des immeubles qui sont très abîmés et qui éventuellement risquent de s'écrouler. Donc, une équipe de militaires qui est arrivée, qui travaille comme l'ambassade de France pour faire donc, une analyse de certains bâtiments, notamment donc, déjà des bâtiments qui sont français, c'est-à-dire l'ambassade donc, qui malheureusement a été quasiment détruite. Le rez-de-chaussée de l'ambassade de France n'existe plus, le premier étage est devenu le rez-de-chaussée. J'ai mes bureaux en centre-ville, j'opère en fait à partir du Ramada. L'hôtel n'a pas de fissure, n'a rien, aucun problème. Et donc, on a nous Internet avec Starlink et on a l'eau, l'électricité. Donc du coup, voilà, j'ai rapatrié en partie mon lieu de travail dans cet hôtel. Voilà, les autres bâtiments en ville, pour l'instant, voilà, c'est très compliqué de donner une situation. C'est C'est très grave.
Le centre-ville de Port-Vila est donc interdit d'accès afin de faciliter les opérations de secours qui se poursuivent donc. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, plus de 100 000 personnes pourraient être affectées par les impacts du séisme. Néanmoins, sur place, la population fait preuve d'une grande résilience. On retrouve Loïc Bernier.
La population est très résiliente, effectivement. Donc pour l'instant, les Vanuatais, en fait, sont très très calmes. Tout se passe plutôt bien, on va dire, au niveau de la population. Les gens restent chez eux. Le plus difficile, c'est probablement pour l'instant d'obtenir de la nourriture. Les magasins, les plus gros magasins qui sont au bon marché sont encore fermés. Il y a quelques magasins chinois qui sont ouverts. Il y a une société qui s'appelle Dynamique qui a ouvert aussi. Donc on va pouvoir un petit peu se réapprovisionner. J'ai eu tout à l'heure le directeur de Bon Marché aussi qui me disait qu'ils étaient en train de nettoyer. Peut-être qu'ils allaient pouvoir ouvrir d'ici une journée ou deux. Donc il devrait y avoir suffisamment de vivres pour l'instant, en espérant que l'aéroport puisse réouvrir aussi très rapidement. D'ici le week-end, je pense que l'aérogare sera à nouveau en état, et donc les vols éventuellement commerciaux pourront fonctionner. C'est indispensable qu'on ait quelques vols commerciaux, parce qu'on a des gens qui ont besoin de voyager, et si l'aéroport est sécurisé, je pense que ça n'empêchera pas les gens de venir, au moins les familles, etc., ces gens-là pourront voyager. Il n'y a peut-être pas moins de tourisme, au moins permet aux familles de pouvoir se déplacer.
Voilà pour le témoignage de Loïc Bernier qui habite donc à Port-Vila. L'aide internationale, vous l'avez entendu, s'organise et arrive progressivement au Vanuatu. Hier, en fin de journée, un avion CASA Défense a acheminé 5 tonnes de matériel et notamment du matériel de communication. D'autres rotations aériennes seront opérées dans les prochaines heures par les forces armées en Nouvelle-Calédonie pour apporter de l'aide aux sinistrés du Vanuatu.
Et à propos d'aide, la Croix-Rouge s'apprête évidemment à intervenir sur place via la PIROPS, la plateforme d'intervention régionale pour le Pacifique Sud, qui a été réactivé il y a une quinzaine de jours. Pour l'instant, il faut évaluer les besoins, c'est ce qui est en cours, explique Yvan Grayel, le responsable régional de la PIROPS.
La situation est toujours confuse, il y a toujours un gros travail de diagnostic. La coordination humanitaire des Nations Unies parle de 80 000 personnes qui sont potentiellement affectées d'une manière directe ou indirecte. Au-delà des besoins très très urgents maintenant de sauvetage et d'évacuation des gens potentiellement sous les décombres, aussi la prise en charge des victimes, on parle de 200 blessés, donc il y a aussi des besoins de prise en charge médicale. Et puis après, ça concerne pour toutes les familles qui ont été affectées, qui sont dehors maintenant, qui ne peuvent plus aller dans leur logement, soit parce que le logement s'est effondré, mais aussi seulement fissuré. C'est plus très sécurisé de rester dans ces habitations, notamment après un gros tremblement de terre, il y a toujours des répliques et certaines peuvent être très très fortes. Donc il faut faire aussi attention. Et donc dans ce cas-là, il faut leur apporter les besoins essentiels de la vie au quotidien pour assurer l'hygiène, pour assurer la consommation d'eau, la nourriture, etc.
Et dans son doc de Montravel, la Croix-Rouge stocke des kits d'urgence prêts à être envoyés sur place.
Il faut pouvoir être prêt pour intervenir le plus rapidement possible et de la manière la plus efficace. Vous voyez bien que ce contexte est très compliqué dans un séisme en milieu urbain. Donc il faut pouvoir être flexible et être capable de répondre rapidement. Donc on a des prépositionnements de stocks d'urgence. On a des kits familiaux, donc pour une famille de 5 personnes de manière standard. C'est des kits d'hygiène, pour l'hygiène corporelle. On a aussi des kits de cuisine. On a aussi des bâches plastiques pour notamment le logement temporaire. Et on a aussi des jerrycans d'eau pour pouvoir stocker de l'eau potable. Ça, c'est pour les kits. On a aussi et c'est une expertise forte aussi de la Croix-Rouge ici, c'est qu'on a des unités de traitement d'eau potable. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir avec la Croix-Rouge du Vanuatu, puisqu'on intervient avec leur invitation, leur accord et en étroite collaboration. L'idée est de pouvoir fournir 200 kits familiaux qui représentent donc à peu près 1000 personnes et les unités de traitement d'eau potable. On sera en capacité d'apporter de l'eau potable à 4000 personnes.
Et le responsable régional de la PIROPS, Yvan Grayel, va participer à plusieurs réunions aujourd'hui pour préparer le départ de cette aide humanitaire.
Il y a une cellule de coordination qui est prévue ici, qui est le comité d'aide d'urgence régionale, le COR, sous l'égide du Haut Commissariat, à laquelle on participe en tant que organisation humanitaire. Et donc on continue à se coordonner. On se coordonne nous aussi avec nos collègues du Vanuatu et aussi avec la Fédération internationale. Donc bien entendu une série de réunions comme ça de coordination. Mes collègues de la PIROPS sont au niveau des entrepôts pour préparer les palettes, pour pouvoir les mettre prêts à partir en cas de besoin. Et nos équipes de volontaires se préparent aussi à partir.
Départ peut-être aujourd'hui de la délégation et de la PIROPS?
Aujourd'hui ça semble compliqué, mais on cible plutôt pour un départ demain et continuer sur les prochains jours avec des rotations.
Yvan Grayel, qui était donc notre invité ce matin, interrogé par Nicolas Legrand, le responsable régional de l'APIROPS, qui nous a dit que ces kits d'urgence de la Croix-Rouge devraient être acheminés par les FANC, soit par liaison aérienne, soit par liaison maritime.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. La nouvelle brigade mobile de gendarmerie de Moindou va-t-elle permettre, selon vous, de lutter plus efficacement contre le braconnage ? Si vous pensez qu'elle va permettre de lutter plus efficacement contre le braconnage, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Et puis la réponse à notre question d'hier, alors que les mesures administratives sont assouplies, 86% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils comprennent que la vente des quantités de bière et d'alcool fort reste limitée. Ils sont 14% à ne pas le comprendre.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et avant de marquer une première pause dans ce journal, nous allons faire un point sur notre opération au cœur de Noël. Nous, vous le savez, nous sollicitons votre générosité et elle ne se dément pas pour porter des cadeaux à la radio, des cadeaux qui seront offerts grâce à nos associations partenaires aux familles en difficulté qui ont des enfants de 0 à 16 ans. Vous êtes nombreux, nombreux, on vous le dit depuis des jours, mais c'est tellement vrai à venir nous voir à la radio, toujours avec un mot gentil comme Étienne qui est passé ce matin déposer ses cadeaux.
Je trouvais que cette année, c'était une année difficile pour la Nouvelle-Calédonie, très difficile en fin d'année pour le Vanuatu et pour Mayotte.
Qu'est-ce que vous nous avez apporté ?
Des jouets, des petites voitures, des jeux de société et un bingo. Quelques jouets, j'espère que ça leur fera du bien, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est très difficile pour toutes les familles. Mon rêve, c'est que le Père Noël passe partout. Je serais content que tout le monde ait quelque chose sous le sapin. Que ce soit les petits, les grands, pour tout le monde. Bonne fête.
Voilà donc Étienne qui est passé ce matin à la radio avec d'autres auditeurs venus porter des jouets pour les enfants de 0 à 16 ans. Vous pouvez continuer à le faire jusqu'à dimanche soir. Hein. Nous sommes ouverts tous les jours de 7h30 à 19h. Pour réceptionner vos cadeaux, pour vous accueillir aussi à la radio. Vous pouvez déposer ces cadeaux aussi à la boutique Petit Dôme, route de Lanzvata. Cette opération au cœur de Noël bat son plein, mais elle n'est pas terminée. On compte encore sur vous et on vous attend donc à la radio tous les jours. Il est 11h43, une pause dans ce journal. Nous verrons ensuite la situation à Mayotte dans un petit instant.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Marlène Alma, Païta et Port-Plaisance, trois boutiques pleines de cadeaux. La parfumerie, la maroquinerie, la lingerie, le textile, Marlène, le seul plaisir d'offrir.
Au cœur de Noël, une initiative de Radio Rythme Bleu parrainée par l'OPT avec le concours de la Croix-Rouge, de la Société Saint-Vincent-de-Paul, du Secours catholique et de la Table ronde française. Au cœur de Noël, c'est la part du cœur, la vôtre, la nôtre, pour que les enfants ne soient pas oubliés au soir de Noël. Au cœur de Noël, une belle histoire qui s'écrit grâce à vous. Tous les jours, de 7h30 à 19h, venez déposer à la radio aux 4 rue de Sébastopol vos cadeaux et jouets pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Au cœur de Noël, avec RRB.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
À Mayotte, le bilan du passage du cyclone est toujours provisoire. Il est pour l'instant de 31 morts et 1400 blessés. Le chef de l'État se rendra sur place la nuit prochaine pour nous. L'état de calamité naturelle exceptionnelle a été activé. L'annonce a été faite par le ministre des Outre-mer démissionnaire, François-Noël Buffet, qui est déjà sur place.
La situation est une situation de désastre absolu et un sentiment, je crois, mais réel de sidération. Donc c'est une véritable catastrophe. Aucun lieu de l'île de Mayotte n'a été épargné par le cyclone Chido. L'urgence, ou l'extrême urgence, c'est évidemment d'apporter les premiers secours. Les secours les plus importants, c'est évidemment de l'eau, de l'alimentation, de la sécurité, bien évidemment, en termes d'ordre public, mais pas seulement. Et puis des moyens matériels pour mettre à l'abri les personnes, tout ce qui est tentes, tout ce qui est type Algeco, tout ce type de matériel, c'est urgent. Remettre en route l'électricité, remettre en route les réseaux d'eau, de l'eau, à manger, des abris, remise en route de l'électricité, je le disais, mais aussi de tous les réseaux, de manière à essayer de repartir à minima. Et ensuite viendra le temps de la reconstruction, mais nous n'en sommes pas encore là, même s'il faut déjà y réfléchir.
François-Noël Buffet, le ministre démissionnaire des Outre-mer, interrogé par nos confrères de CNews. On est encore en effet loin de la reconstruction. Ce qui préoccupe les Mahorais pour l'instant, c'est évidemment la vie courante, et elle n'est pas simple. Le reportage sur place de Wilfried de Villers.
Encore cet après-midi, j'ai vu de longues files d'attente devant certains supermarchés. Des clients qui bien souvent cherchent la même chose, de l'eau potable. C'est la ressource qui manque le plus ici à Mayotte depuis le passage du cyclone. Soudjaï s'est rendu dans 4 supermarchés différents et espère que celui-ci sera vide réapprovisionné.
Un peu compliqué de trouver des bouteilles d'eau dans les magasins. Du coup, la plupart des gens se ravitaillent dans les rivières. Et j'ai vu même des gens boire de l'eau de la rivière qui n'est pas potable. C'est la seule solution pour survivre. On est dans le survie actuellement.
L'eau, mais aussi du riz, des pâtes, si certains rayons sont bien fournis, il manque souvent l'essentiel pour se faire à manger. Et quand ils sont en rayon, certains produits sont rationnés. Ramzi Boukris, responsable d'un supermarché.
On a déjà limité l'eau à un pack par client. On avait de l'eau ce matin, mais il y avait une grosse file d'attente. Et on ne peut pas laisser un seul client qui récupère pratiquement la totalité. Donc on essaie que tout le monde y sorte avec quelque chose le temps qu'on reçoit la marchandise.
Un rationnement parfois mal accepté par des clients qui tentent de repartir avec plusieurs packs d'eau. Dans un supermarché, la police a dû intervenir tout à l'heure pour calmer les esprits.
Le reportage à Mayotte de Wilfried de Villers. Notez qu'un pont maritime a été mis en place à partir de la Réunion. 200 conteneurs d'aide alimentaire et humanitaire doivent être acheminés d'ici dimanche. L'actualité en métropole, en bref, est toujours pas de gouvernement constitué. François Bayrou, le Premier ministre, poursuit ses consultations. Il a invité les chefs de parti et de groupes politiques à une nouvelle discussion hors Rassemblement national et France insoumise. « Je ne suis pas décidé à accepter l'injustice profonde qui m'est faite », déclaration de Nicolas Sarkozy, qui a été condamné définitivement dans l'affaire dite des écoutes. La Cour de cassation a en effet validé la peine de 3 ans de prison, dont un avec sursis, que l'ancien chef de l'État effectuera sous bracelet électronique. Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il allait saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis toujours en bref, l'EPR de Flamanville va être raccordé au réseau électrique avant le week-end. Enfin, c'est en effet un événement, la construction de ce générateur de réacteur de nouvelle génération avait démarré il y a 20 ans maintenant. La construction a pris 12 ans de retard et le budget initial a été multiplié par 4. Un chauffeur de bus est-il responsable de ce qui se passe dans son véhicule? C'est la question posée par cette affaire qui se déroule à Toulouse. Un conducteur est en effet convoqué par sa hiérarchie et il risque le licenciement après une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Que lui reproche-t-on exactement? Charles Lullier pour Europe 1.
Tout simplement d'avoir empoigné un peu trop fermement l'un des jeunes fraudeurs pour le forcer à quitter le bus. Juste avant, le chauffeur avait reçu un coup de pied, des menaces et des insultes. Une réaction sanguine, certes, mais compréhensible, affirme ce collègue, qui soutient le malheureux mis en cause au vu du contexte d'insécurité dans les bus ici.
N'importe quel d'entre nous peut arriver à ce point-là, en fait. Dès qu'on a une petite intervention, bah, malheureusement, on est tout de suite dans le conflit et on n'est pas dans le dialogue. Et du coup, ça monte très très vite et on se retrouve dans ce genre de situation, tout simplement. Avec la fatigue, l'usure, surtout ouais, des comportements de groupe qui peuvent être menaçants, qui fait qu'on est dans un état d'esprit un peu plus nerveux. On a tous connu ça et on connaîtra encore, malheureusement, ce genre de choses.
Une vague de soutien qui va bien au-delà du cercle des collègues. Outre les usagers, eux aussi solidaires, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a publiquement pris fait et cause pour ce chauffeur de bus et son licenciement, s'il intervient demain, ne fera qu'amplifier la polémique.
Il est 11h49, c'est la dernière pause dans ce journal. Avant de voir toute l'actualité sportive, et on se retrouve ensuite pour les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Pour les fêtes de fin d'année, Nespresso vous rembourse 50% de votre machine en crédit café. Rendez-vous dans votre boutique Nespresso au 33 rue de Sébastopol à Nouméa par téléphone au 050 200 ou sur notre site internet www.nespresso.nc. Offre soumise à conditions, disponible en boutique. Attention, important. La ville de Nouméa a dû procéder à un toilettage des listes électorales face à de nombreuses adresses de domicile incorrectes. Certains d'entre vous ont pu être radiés. Vous devez vérifier votre inscription sur le site www.electeur-nc.fr. Si tel était le cas, vous devez procéder à votre réinscription, soit à l'hôtel de ville, soit par Internet sur le site www.nouméa.nc, soit par courriel à l'adresse suivante vie.citoyenne@ville-nouméa.nc. Important, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous réinscrire. N'attendez pas le dernier moment. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, vous devez aussi le faire avant le 31 décembre 2024. Pour tout renseignement, appelez la mairie de Nouméa au 27 31 15.
Pour un Noël pétillant et féerique, Créator est ouvert tout le week-end. Alors prêt pour un Noël joyeux en diamants et en perles? Rendez-vous chez Créator. Toutes les infos sur Facebook, bijouterie Créator. Créator, le plus grand choix de bijoux de Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Alors, on va commencer par une double actualité football, Léo Fichaud. D'abord, ce matin, ce choc en Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Monaco. 6 buts dans un match remporté à la fin par le PSG.
Eh oui, le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 4-2 au terme d'un match spectaculaire. Hein, devant à la pause, mais malmené au retour des vestiaires. Paris a finalement repris les devants en fin de rencontre. Une victoire difficile à aller chercher selon l'attaquant parisien Ousmane Dembélé.
Oui, bien sûr, c'était un match difficile. On sait que Monaco est une bonne équipe. On la voit en championnat et aussi dans la Ligue des Champions. Voilà, on a tout fait pour revenir avec la victoire. Ça n'a pas été facile, comme Monaco ils ont mené. On est revenu au score aussi. Et franchement, je pense qu'on mérite cette victoire aujourd'hui. On n'a pas été concentré pendant au moins une bonne quinzaine de minutes quand on est revenu à la seconde période. Et voilà, on l'a payé cash face à une équipe comme Monaco. Et voilà, on a su rester dans le match et revenir. Les statistiques sont là, mais le contenu des matchs peut encore faire mieux. Mais bon, voilà, je suis content. On va continuer comme ça. On a préparé la Coupe de France face à Lens.
Et grâce à cette victoire, les joueurs de la capitale prennent provisoirement 10 points d'avance en tête du championnat devant Marseille et Monaco. Notez que c'était le dernier match de Ligue 1 de l'année. La suite de la 16e journée se disputera le premier week-end de 2025. Ce week-end-là, le PSG et Monaco joueront, eux, le trophée des champions.
Et puis toujours en football, on va signaler que Kylian Mbappé a marqué un but ce matin en finale de la Coupe intercontinentale.
L'attaquant français inscrit le premier des 3 buts du Real Madrid contre le club mexicain de Pachuca avant de délivrer une passe décisive sur le deuxième. Les Madrilènes se sont imposés 3-0 et ont remporté leur 5e trophée de l'année après la Liga, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Espagne et la Supercoupe d'Europe.
Allez, un mot de voile parce que la lutte se poursuit en tête du Vendée Globe entre Charlie Dalin, Johan Richomme et Sébastien Simon. Ce trio de tête qui frôle avec la zone d'exclusion antarctique se tient en moins de 30 000 nautiques. Les skippers se rapprochent à vitesse grand V du point Nemo. Du tennis aujourd'hui avec toujours deux Calédoniennes qui sont engagées en Nouvelle-Zélande.
Leilani Ipuneso disputait ce matin les 8e de finale du W35 de Tauranga. Elle était opposée à la japonaise Hiromi Abe et malheureusement elle s'est inclinée en 2-7, le score 2-6, 3-6. De son côté, Caroline Delaunay est en quart de finale du double avec la thaïlandaise Pauini Roamrak. Elles affrontent la paire néo-zélandaise aujourd'hui, la paire néo-zélandaise qui est tête de série numéro 4 du tournoi.
Et puis on termine avec du handball et les sélections calédoniennes jeunes qui disputent l'IHF Trophy.
Ce matin, les moins de 18 ans se sont imposés 44-37 sur la Nouvelle-Zélande. Deuxième victoire en deux matchs donc pour les U18. Ils avaient battu, on le rappelle, les Samoa américaines 56-14 en ouverture du tournoi. Les moins de 20 ans, eux, joueront contre l'Australie à 13h. Pour rappel, ils ont perdu 29-20 contre la Nouvelle-Zélande hier et avaient battu Tahiti 34-18 mardi lors de la première journée.